Salut, moi c'est Jérôme Vermelin et vous écoutez Les gens qui lisent sont plus heureux. Et si, à l'heure où les réseaux sociaux vampirisent nos cerveaux, prendre le temps de lire un livre était devenu un acte de résistance? À chaque numéro de ce podcast, je vous propose de partir à la rencontre d'un auteur qui partage avec nous sa passion de la lecture. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Guillaume Musso chez son nouvel éditeur, Calman Lévy.
Lire, c'est un plaisir à nul autre pareil. Pourquoi? Parce que voilà, vous êtes au cœur de l'intime. Vous êtes dans ce que Gabriel Garcia Marquez appelle finalement la vie secrète des gens.
Depuis 7 ans déjà, Guillaume est l'écrivain français le plus lu dans l'Hexagone. J'ai eu la chance de le rencontrer à plusieurs reprises et je peux vous garantir que ce succès n'a rien changé au personnage. Discret, modeste, mais toujours enthousiaste lorsqu'on aborde avec lui sa passion des livres. La sortie de La jeune fille et la nuit, son nouveau roman, était donc l'occasion rêvée de s'entretenir à nouveau ensemble et de lui poser cette question. Les gens qui lisent sont-ils plus heureux? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas?
Oui, je pense qu'ils sont plus heureux pour plusieurs raisons. D'abord, comme disait Umberto Eco, parce qu'ils ont plusieurs vies. Celui qui lit pas n'a qu'une seule vie. Celui qui lit notamment des romans peut avoir 500, 1000, 2000 vies. Celui qui lit peut s'évader, s'échapper de la réalité. Moi, je suis d'abord venu à la lecture comme ça. Revenu à la lecture en l'envisageant comme une échappatoire à la monotonie du quotidien. Et aussi, la lecture envisagée non pas simplement comme un moyen de fuir la réalité, de fuir le monde, mais comme dit Pivot, par un moyen de rentrer dans le monde par d'autres portes. Pour se frotter à des idées qui ne sont pas les nôtres, pour être vraiment dans l'esprit de personnes qu'on rencontrera jamais, pour expérimenter des existences qui se sont passées il y a 200, 300 ans, ou dans le futur. Et donc c'est à la fois, dans une première étape, s'abstraire du monde, mais pour mieux y revenir en étant enrichi et pour finalement mieux investiguer et mieux profiter pleinement du monde et de la vie. Et c'est ça pour moi, lire.
Dans votre nouveau livre, La jeune fille et la nuit, l'écrivain, et le personnage principal est un écrivain, qui a eu un professeur qui lui a donné le goût de la lecture, avant même le goût de l'écriture.
Oui. Oui.
Est-ce que, vous, il y a une personne en particulier qui vous a donné l'amour des livres?
Incontestablement, ma mère. Tous ces qui étaient bibliothécaires et qui a semé des graines qui plus tard m'ont amené à la lecture. Pendant longtemps, ma mère me parlait des livres, me disait tu devrais lire, sans jamais rien imposer. Pendant longtemps, je n'ai lu que des BD et à 11 ans, 12 ans, j'ai lu un roman, je l'ai souvent raconté, qui est Les Hauts de Hurlevent. C'était pendant les vacances de Noël, j'étais chez mon grand-père, d'un seul coup, panne d'électricité, trop froid pour aller jouer dehors. Et dans la bibliothèque de mon grand-père, il y avait les mémoires du général de Gaulle et il y avait les Hauts de Hurlevent.
Vous auriez pu lire les mémoires du général de Gaulle et devenir en politique.
Très intéressante et très bien écrite. Mais pour le coup, voilà, j'ai pris ce livre et je l'ai pris pourquoi? Parce que quand je l'ai ouvert, il y avait une étiquette et il y avait marqué le nom de ma mère, en écriture un petit peu comme ça, écriture ronde, et c'était un livre qui appartenait à ma mère quand elle avait 15 ans, voilà. Et lire ce roman, gothique, violent, tourmenté, ça m'a éveillé à ça. Pourquoi? Parce que j'ai été vraiment marqué par le fait que vous étiez à l'intérieur de l'esprit des personnages, vous étiez dans leur tourment, vous étiez dans leur folie, et ça, j'avais jamais vu ça avant. Parce que dans un film, vous êtes dans l'action, vous êtes dans ce que vivent les gens, mais du point de vue, effectivement, bien souvent, de l'action. Alors que là, vous étiez au cœur de l'intime, et ce roman m'a passionné, et j'ai commencé à lire, j'ai plus jamais arrêté. J'ai eu aussi un prof de français en classe de seconde, professeur assez incroyable, voilà, qui avait commencé l'année en nous faisant lire des souris et des hommes de Steinbeck, au lieu de commencer par un classique du 19e, un peu pesant. Et c'est lui aussi qui m'a fait écrire ma première nouvelle et qui m'a mis comme ça un petit peu le pied à l'étrier de l'écriture. Et donc, je pense qu'on a besoin, enfin surtout aujourd'hui c'est assez drôle. Si vous avez des enfants en bas âge, vous savez qu'en fait, les enfants aiment lire, aiment qu'on leur raconte des histoires, ils aiment les livres, ils aiment l'objet livre. Et il y a un truc qui se passe au niveau du collège où souvent, ils abandonnent. Pourquoi? Parce que d'un seul coup, lire égale contrainte. Lire égale travail scolaire, égale ennui. Et je pense qu'il y a un truc à faire là, à ce niveau-là, à ces âges-là. Il y a besoin comme ça de personnes relais qui vous orientent vers des lectures susceptibles de vous plaire.
C'est-à-dire que le livre est une contrainte là où la musique, les films, c'est une évasion
Ben oui, bien sûr.
et le livre perd son côté fun, ludique.
Oui, parce que on n'est pas vraiment à armes égales, parce qu'il y a une séduction immédiate des images, de la vidéo, des films, d'Internet. Alors que lire, ben, ça requiert quand même oui, un effort. C'est-à-dire qu'avant de passer par la case plaisir, il y a quand même un petit effort à fournir. Je sais que Mona Ozouf, on parle très très bien de ça. Elle parle comment c'est finalement en s'ennuyant lorsqu'elle était adolescente que finalement elle a appris à apprécier les livres. Et je me retrouve dans ça. C'est-à-dire que pour lire, vous avez besoin d'un temps qui soit un temps plus calme, plus solitaire, ralenti. Or, le problème d'aujourd'hui, c'est que avec nos téléphones notamment, on ne s'ennuie jamais. Enfin, il y a toujours un. On a à portée de main, voilà, de la musique, des jeux, des films. Et donc, alors qu'avant, moi aussi, voilà, j'ai le souvenir de vacances comme ça, dans un été un petit peu alangui, où il n'y avait pas grand-chose à faire, quoi. On pouvait regarder le Tour de France à la télé, mais à part ça, voilà, j'étais bien content d'avoir. Des romans d'Agatha Christie dans la bibliothèque, parce que voilà, ça permettait d'échapper à l'ennui, et c'est aussi cet ennui qui m'a fait lire. Et on doit quand même, oui, passer par cette case quand même un petit peu contraignante au début, mais pour avoir un plaisir qui est un plaisir à nul autre pareil, parce que lire, c'est un plaisir à nul autre pareil. Pourquoi? Parce que voilà, vous êtes au cœur de l'intime. Vous êtes dans ce que Gabriel Garcia Marquez appelle finalement la vie secrète des gens. Il dit, voilà, chaque homme a trois vies, une vie publique, une vie privée, une vie secrète. Et dans les romans, souvent, on est au cœur de la vie secrète des gens. Et c'est ça qui est passionnant.
Alors, quand il a 11-12 ans, Guillaume Musso, quel genre de vie secrète le passionne? Est-ce que ce sont les romans policiers, les romans thrillers comme ceux que vous écrivez aujourd'hui, ou est-ce que vous avez des lectures à l'époque beaucoup plus variées, surprenantes?
Ce qui m'a caractérisé vraiment, c'est d'avoir une culture complètement éclectique avec une mère qui, de suite, me dit finalement, ne sois pas snob, lis Flaubert, mais lis Stephen King, lis Proust, mais lis Pagnol. Va voir les films de Kieslowski, Tarkovski, Claude Sautet, mais va voir Les Bronzés, va voir De Funès. Et qui me dit surtout, voilà, c'est le. La culture, certes, c'est une arme, et c'est utile d'en avoir pour ta vie, pour tes études, mais c'est aussi, voilà, une source incommensurable de plaisir. Et une source qui va s'auto-alimenter. C'est-à-dire que c'est bien quand un roman en entraîne un autre, quand la vision d'un film donne envie d'en voir d'autres. Et c'est ce processus cumulatif, ce bain finalement de culture, et finalement la certitude de pouvoir être toujours heureux, parce que finalement ce robinet culturel ne s'arrêtera jamais. Pourrait jamais lire ne serait-ce que 1% des romans qui ont été écrits, pourrait pas voir ne serait-ce que 1% des films qui ont été tourner, et c'est à la fois vertigineux et à la fois, oui, une source de plaisir sans fin qui vous met aussi dans la peau d'un explorateur pour pouvoir dénicher des pépites, Et c'est pour ça que moi, après avoir vu un film ou après avoir lu un roman, mon premier réflexe, c'est toujours en parler à d'autres pour finalement, ne serait-ce que pour le plaisir de la discussion qui s'en suivra, discussion qui sera même encore plus excitante si nous sommes en désaccord.
Et alors justement, si on peut revenir sur sur ces livres-là qui ont forgé vos débuts de lecteur après Léo de Hurlevent, est-ce qu'il y a quelques livres comme ça qui entraînent chez vous une passion très forte et éventuellement un débat avec d'autres, genre moi j'adore, non moi je déteste, c'est génial, non c'est nul. Est-ce qu'il y a des livres comme ça?
Il y avait deux êtres en moi en fait. Il y avait un jeune garçon romantique, voilà, qui après avoir lu Léo de Hurlevent, a lu Le Grand Maulne, a lu voilà toute cette littérature là qui était voilà, qui exaltait un petit peu le sentiment amoureux de façon très très noble, de façon éthérée, poétique. Mais j'aimais ça. Et il y avait le garçon, voilà, un petit peu plus aventurier, et la découverte de Stephen King, et un autre type de littérature qui là prenait sa source dans les petites villes américaines, avec des personnages vraiment qui étaient assez banals en apparence. Voilà, c'est c'est comme Hitchcock, c'est le monsieur tout le monde à qui il va arriver des choses extraordinaires. Et King est très fort pour ça, est très fort pour nous attacher à des personnages, voilà, qui nous ressemblent, pour lesquels on va être en empathie de suite, et pour faire surgir quelque chose d'incroyable dans la vie de ces personnages, y compris fantastique, et ce fantastique va devenir crédible tellement il est ancré dans un quotidien qui nous paraît banal.
En vous écoutant parler des livres que vous aimez, je reconnais, je repense à vos livres, parce que il y a toujours une grande part de romantisme dans les livres de Guillaume Musso. Il y a aussi une part de thriller, il y a aussi une part de fantastique. Alors il n'y en a pas dans le nouveau,
Non,
dans le dernier, La Jeune Fille et la Nuit, mais il y en a encore eu il n'y a pas très
Ouais, il n'y a pas
longtemps,
très
dans l'instant
longtemps.
présent.
Ouais.
Tout ça, ça se mélange au fur et à mesure. Et pour vous, c'est ça. C'est l'idée, c'est qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de littérature noble, de littérature de genre,
Mais
tout
bien
est bon à
sûr,
prendre.
moi j'ai toujours été au croisement, voilà, de plusieurs genres. J'écris des romans qui sont finalement assez hybrides. C'est à la fois ce qui a fait ma force en France, je pense, parce que beaucoup de lecteurs avaient l'impression, voilà, de trouver quelque chose qu'ils ne trouvaient pas ailleurs, et qui parfois a pu déconcerter les éditeurs étrangers qui ne savaient pas où me classer. Et c'est vrai que selon les pays, je suis parfois classé en fantastique, en romance, en polar, pour des romans qui finalement parfois ne sont pas tout à fait ça, et qui peuvent induire effectivement un trouble de la part des lecteurs qui peuvent acheter ces romans pour des mauvaises raisons.
Alors en France, vous êtes plutôt classé en Guillaume Musso. Hein, c'est un peu un rayon
Ouais,
à lui tout seul.
y a cette chance finalement d'avoir été suivi par les lecteurs au fil des années, alors depuis 2004, dans des genres vraiment très 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 différents, d'avoir gagné des lecteurs au fur et à mesure, d'avoir un petit peu éclairci un malentendu qu'il pouvait y avoir au début. Et c'est vrai qu'il y a eu une époque où je recevais énormément de lettres, de mails, de courriers, ouais, de gens qui disaient: je vous avais jamais lu, j'étais persuadé que ce que vous écriviez n'était pas fait pour moi, et finalement j'ai adoré. Et donc les gens n'y allaient pas parce que par rapport, je sais pas, au titre, par rapport aux couvertures de l'époque, ils n'avaient pas envie de rentrer dans mon univers, alors qu'après, une fois qu'ils avaient aimé ça, finalement, même dans des genres qui étaient à la base pas leur came, disant voilà, ah non mais moi je déteste le fantastique, mais en fait vos livres c'est pas vraiment ça, c'est un prétexte. Et donc voilà, et donc finalement par strates comme ça au cours des années, j'ai gardé et j'ai conquis de nouveaux lecteurs et ça oui, ça c'est un honneur, c'est une fierté. Et j'essaie chaque année maintenant voilà, de les amener sur un territoire que j'ai pas encore exploré. On en parlera tout à l'heure avec ce nouveau livre qui est un campus novel qui se passe en France. Et là aussi, c'est quelque chose d'assez singulier. En tout cas, là, les éditeurs étrangers, là, notamment anglais, américains, qui ont acheté ce livre, disaient, ah, c'est incroyable parce qu'on retrouve quelque chose que l'on connaît, c'est-à-dire le campus novel, le roman qui se passe au sein d'un campus, d'une fac, mais transposé dans un univers, un lieu, une région, qui est la Côte d'Azur, et voilà, qu'on n'a pas l'habitude de voir, et le côté Twin Peaks au pays de Marcel Pagnol, qui est une formule d'un des personnages, finalement là, joue à plein.
Ce qui est intéressant, c'est que avant même sa sortie, votre nouveau livre, il suscite du bonheur. En tout cas, il suscite une excitation chez les gens. Et est-ce que c'est parce que vous êtes très présent sur les réseaux sociaux et que vous informez les lecteurs en amont? Mais on sent qu'il y a une attente. Je vais pas comparer ça à la sortie d'un blockbuster comme Avengers,
Non,
où
mais
les gens font la queue devant le cinéma. Mais clairement, il y a une attente, quelque chose qui relève du plaisir partagé. Les gens ont envie du nouveau Musso.
ouais, c'est vrai que c'est un rendez-vous finalement qui est pris comme ça année après année. Bien que chaque année, je dis, c'est la dernière fois que j'écris un livre par an. L'année prochaine sera une année blanche. Je n'écrirai pas de livre. Et chaque année, finalement, l'écriture me rattrape et le plaisir, oui, de revenir vers les lecteurs. L'excitation, elle est forte de leur côté, mais elle est forte aussi chez moi. J'ai toujours pensé, moi, comme Paul Auster, qu'il y a cette idée que finalement, chaque roman est une contribution à part égale entre celui qui l'écrit et celui qui le lit. Et que finalement, à partir du moment où je remets mon manuscrit ou mon roman sort, voilà, j'ai fait 50% du boulot, mais ce qui va se passer après, c'est les lecteurs. Les personnages ne vont exister qu'à partir du moment où ils se mettent en mouvement dans la tête des lecteurs, les discussions, les critiques, qu'elles soient positives, négatives, la façon dont le livre va être perçu à l'étranger. Et donc voilà, c'est tout ça qui fait exister pleinement un livre. Alors j'ai écrit il y a quelques années un roman qui s'appelle La Fille de papier, qui raconte un peu ça, qui raconte voilà, cet état transitoire entre la réalité et la fiction, comment la fiction nourrit la réalité, la fiction. Et oui, c'est un véritable plaisir. Voilà, là, le moment qu'on vit là, quelques jours après la sortie du roman, c'est quelque chose de magique. Et c'est là où vous avez vraiment l'impression, ça y est, que votre histoire existe.
Alors, cette histoire, elle a l'air autobiographique,
Mais elle ne l'est pas,
elle ne
ouais.
l'est pas, mais elle a tous les attraits de l'autobiographie, en tout cas voire de la confession, parce que ça se passe dans la ville où vous avez grandi.
Ouais.
Vous êtes né à Antibes, hein,
Je suis né
Guillaume?
Antibes, ouais, je suis Antibois. Alors ce livre est particulier par sa jeunesse, c'est une histoire dont les rebondissements, disons le scénario, est dans ma tête depuis une petite dizaine d'années. Voilà, ça fait à peu près 10 ans que j'avais envie d'écrire un meurtre au sein d'un campus. Voilà, parce que j'aime bien les campus novels en tant que lecteur, hein, les romans de David Lodge, Donat Hart, Michael Chabon. Et j'avais envie de ça, sauf que j'ai aucune légitimité pour écrire sur quelque chose qui se passe à Harvard, à Berkeley, parce que j'ai pas été étudiant là-bas, j'ai pas enseigné là-bas. Donc j'avais ce scénario qui me paraissait être être intéressant, solide, mais j'avais pas envie d'écrire ce livre. Et je le remettais toujours à l'année prochaine, à l'année suivante. Et d'un seul coup, je sais pas exactement pourquoi, il y a eu une évidence que ce roman devait se passer. De se passer sur la Côte d'Azur. Chaque fois que je revenais à Antibes, ce que me disaient les gens, c'était « Quand est-ce que tu nous écris un roman qui se passe chez nous ?» On voudrait un Musso qui se passe chez nous, en fait. Et je disais « Mais j'en ai très envie, parce que bien sûr j'ai envie d'écrire sur ma région, mais je n'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas, pourquoi ? Parce que pendant longtemps, j'avais trouvé commode de mettre une distance entre ma vie quotidienne et mon histoire. C'est pour ça que beaucoup de mes romans se passaient en Amérique du Nord, à New York, qui avait l'avantage d'être une ville que je connaissais à l'époque bien, et d'être, donc d'être à la fois familière, mais lointaine. Et petit à petit, voilà, j'avais presque abandonné l'idée de pouvoir faire un roman qui se passe sur la Côte d'Azur, parce que j'avais pas l'histoire pour. Et là, d'un seul coup, voilà, comme sur un plateau, on me disait, mais ton histoire de campus, tu peux la faire sur la Côte d'Azur. Et j'ai toujours pensé, voilà, qu'un roman réussi, c'était comme une histoire d'amour réussie. L'histoire d'amour réussie, c'est vous rencontrez la bonne personne au bon moment. Et un roman réussi, c'est vous avez la bonne histoire avec des bons personnages, mais vous êtes dans un moment de votre vie où il se passe un truc qui fait que vous savez que c'est le moment pour l'écrire, où vous allez pouvoir la raconter de façon la plus efficace et la plus juste. Et donc ce roman est à la fois très personnel, parce que c'est les lieux de mon adolescence, j'ai l'âge du narrateur, le narrateur a la même profession que moi, je raconte ça à la première personne, mais pas du tout autobiographique, parce que les événements qui lui arrivent et la vie de ce type qui est quand même foncièrement malheureux, qui est passé à côté de sa vie, qui a pas d'enfant, qui est pas en couple, qui ne correspond en aucun cas à la mienne. Je vous parle même pas du fait que, bien sûr, j'ai pas emmuré de cadavre.
Voilà. Bon. On ne sait pas.
Mais c'est vrai que c'était. Voilà, j'ai écrit les deux premiers chapitres de ce livre au début de façon assez rapide, en disant ben, je tente un truc. Tenter un truc, c'était là, c'est au début. Chaque fois que je commence un livre, il y a la question de se dire finalement, est-ce que ça va être raconté à la première personne ou pas. Et parfois, c'est vraiment, ça vous empoisonne, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vous décider. Ça m'est arrivé pendant très longtemps. Pas pour ce livre-là, mais pour d'autres, de faire de façon concomitante deux versions. 60 pages à la première personne, et voilà, les mêmes 60 pages, mais à la troisième personne. Et parfois, il faut du temps pour voir finalement est-ce que la voix est juste. Et là, de suite, effectivement, c'était la première personne apparue, mais parue comme étant la plus efficace, la plus juste, avec des focalisations sur des personnages différents. Et je sais que j'avais lu un jour une interview de Robert Sabatier qui disait, qui donnait comme conseil aux aspirants auteurs, vraiment garder la première personne pour les livres auxquels vous tenez vraiment. Et donc, comme je tenais vraiment à ce livre, la première personne.
Ça veut pas dire qu'on tient pas aux autres.
Ça veut pas dire qu'on tient pas aux autres, bien sûr. Mais c'était. Quand vous racontez un truc à la première personne, vous êtes dans un rapport différent avec votre lecteur. C'est-à-dire que malgré lui, malgré vous, le lecteur s'imagine que c'est vous. Voilà. Et encore plus quand le lecteur vous connaît un peu, qu'il vous a déjà croisé. Et encore plus si vous-même. Vous jouez avec le fait de mettre en scène quelqu'un qui a la même profession que vous et le même âge.
Parce qu'on forcément on va penser que ce personnage est un peu un double diabolique de Guillaume Musso, ou l'auteur malheureux que vous pourriez avoir craint de devenir.
Peut-être.
À un moment donné, c'est une espèce de fantasme en négatif.
Oui. Alors, je ne l'ai pas pris exactement comme ça, parce que dès le départ, il y avait. Moi, j'écris, voilà, j'écris toujours mes romans, je l'ai souvent dit, à un double niveau de lecture. Un premier niveau qui est vraiment le plaisir de l'enquête, le plaisir de tourner les pages, le côté page-turner assumé. C'est ce que j'aime. Voilà, j'aime lire ça, j'aime cette idée qui remonte, mais qui remonte à loin, hein, qui remonte. Au Mille et une nuits, qui remonte à Alexandre Dumas, qui remonte au feuilletoniste du 19e siècle. J'aime ça, j'aime le suspense. Donc ça, c'est le premier niveau de lecture. Et un deuxième niveau où vraiment, voilà, j'ai envie de mettre en scène certains thèmes, certaines questions, d'illustrer certaines problématiques. Et là, il y avait, oui, il y avait l'envie d'écrire sur le destin de gens qui sont devenus assassins par accident. Parce que je pense que ça peut nous arriver à tous.
C'est un cauchemar que vous avez fait un jour?
Mais c'est un cauchemar chaque fois que je prends ma voiture, ou chaque fois que vous vous dites que voilà, il peut tout se passer, que la vie est fragile, qu'elle tient un fil et que. Voilà, donc ça oui, ça j'avais envie d'écrire sur ça, sur des gens bien qui à 19 ans sont devenus assassins par accident et qui finalement qui ont réussi à masquer ça, mais que finalement voilà, c'est resté entre eux et en eux et que quelque chose finalement s'est éteint en eux, a pourri en eux, et ça c'était un thème fort. Le deuxième thème, c'est l'amour qui vous élève ou qui vous tue. En gros, la différence entre l'amour et la passion. L'amour qui vous élève et la passion qui vous consume et qui vous peut vous faire n'importe quoi. Et après, il y avait l'envie de parler des relations parents-enfants. Jusqu'où est-on prêt à aller pour protéger ses enfants? Et de décrire le destin aussi. De personnages qui veulent être libres, qui veulent aller au bout finalement de leur destin, de leurs envies, qui veulent vivre leurs histoires d'amour, qui veulent aller au bout de leur passion. Et l'histoire, mon histoire, c'est finalement la collision de ces destins-là. J'aime bien ce film de Paul Haggis, Collision. Vous avez comme ça le film qui s'écrit à travers la rencontre dramatique entre plusieurs destins, plusieurs personnages qui n'auraient jamais dû se croiser.
Guillaume Musso, c'est un homme un peu angoissé, parfois, beaucoup moins qu'avant. Est-ce que ça transparaît dans les histoires que vous
Mais je ne
racontez?
sais pas si on n'est pas tous, on a tous des angoisses, on a tous, quand vous devenez parent, voilà, vos angoisses changent, vous avez peut-être des angoisses. Professionnel, des angoisses liées à votre famille. Oui, je pense que. Mais l'angoisse vous nourrit aussi, c'est-à-dire elle vous amène des idées d'histoire, elle pouvait cristalliser cette angoisse, cette peur à travers des histoires pour voilà, essayer de finalement de tenir ça éloigné. Regardez combien les enfants, les jeunes enfants aiment qu'on leur raconte des histoires, y compris des histoires qui font peur. Ils aiment être effrayés parce que ben, leurs parents sont à côté, que c'est vraiment. Voilà, si on a du frisson, mais finalement, on se met pas quand même en danger énormément. Et nous, les adultes, quand on lit des polars, quand on lit. Je parlais de ça avec Granger, et il disait, voilà, il disait, oui, mais. Mes romans, y compris les plus violents, les plus sanglants, finalement, le lecteur se fait peur à bon compte. On aime frissonner sous la couette une fois que notre porte est bien fermée. Et donc, l'être humain a besoin de ça, a besoin qu'on lui raconte des fictions dans lesquelles, voilà, il peut lui aussi projeter ses peurs et dans lesquelles celui qui les a écrites a forcément projeté ses peurs à lui aussi.
On se demande toujours quand un écrivain comme vous, qui publiait une fois par an, avait le temps de lire. Alors moi,
toujours, oui.
Moi, j'ai envie de savoir
oui.
Quelles sont vos habitudes de lecture. Est-ce que vous lisez tout le temps? Est-ce que vous avez un livre en permanence sur le point ou à peine commencé? Est-ce qu'il vous arrive de ne pas lire pendant plusieurs semaines? Quel genre de lecteur est Guillaume Musso?
Je crois que depuis l'âge de 11 ans, j'ai toujours eu un livre en cours, un ou plusieurs livres en cours. Et je lis y compris pendant les périodes où j'écris, mais parce que comme je suis un laborieux, j'écris, il me faut du temps pour écrire, donc j'écris 9 mois par an, et donc je ne peux pas m'arrêter de lire 9 mois par an, bien que j'ai des collègues qui me disent « Ah ben non, mais moi je ne peux pas lire pendant que j'écris, j'ai peur que ça m'influence, ou j'ai peur de... »
Mais c'est obligé, ça. Mais... Non, si on écrit un roman très dramatique, très noir, et qu'on lit un roman feel-good en plein milieu, ça va atténuer le... Non, ça va pas déteindre.
Pas forcément. Enfin, je sais pas. Je pense que ça doit dépendre effectivement des personnages. Moi, je lis des choses très très différentes et j'essaye effectivement, oui, de construire un mur quand même entre ce que je lis pour rester vraiment un lecteur, mais vraiment lecteur de base, sans m'interroger forcément sur quelles sont les ficelles, quelles sont les et mon activité d'auteur où là voilà c'est autre chose. Ce que j'aime lire aussi c'est en ce moment c'est le privilège oui de pouvoir lire en avant-première des romans de gens qui sont voilà des collègues, des copains qui vous envoient leurs romans. Là je termine le dernier livre de Jean-Christophe Granger, ouais, qui est bien, qui est... Et Granger a toujours été un modèle pour moi, parce que quand j'ai découvert Granger, je sais pas, je pense que c'était voilà, dans les années 90, je me suis dit, waouh, c'est quand même incroyable, enfin un mec, un Français, qui écrit des romans avec l'intensité des meilleurs thrillers américain à la Thomas Harris, mais situé en France, avec des gendarmes dans les Pyrénées ou avec leur Twingo. Et je trouve que les romans de Granger, depuis 25 ans, ont toujours tenu un certain rang. Je trouve que c'est pas quelqu'un qui s'est reposé sur ses lauriers. Et en tout cas, c'est un modèle dans la durée. On peut faire un best-seller comme ça, on peut en faire deux, en faire 10 ou 15, c'est déjà plus dur parce que ça veut dire voilà, que vous êtes arrivé finalement à un moment donné, agrégé des lecteurs qui vous suivent. Et la caractéristique un petit peu des best-sellers, Pierre Lemaitre parlait de ça pour son Goncourt et la suite Couleur de l'incendie. Là. Il disait, voilà, finalement, ces romans, à un moment donné, ont fédéré, dans le sens le plus noble, des gens qui ne lisaient pas le livre pour les mêmes raisons. Certains lisaient un livre pour la partie historique, d'autres pour la partie un petit peu enquête, d'autres pour le style. Et c'est ça un petit peu le miracle des romans qui, d'un seul coup... fédère comme ça autant de lecteurs.
Quel est le dernier livre qui vous a scotché? Peut-être même votre dernière découverte.
Dernier roman qui m'a vraiment marqué. Toujours difficile. C'est une histoire bizarrement. Hein, c'est une histoire illustrée du théâtre. Qui est assez peu connu et c'est je m'intéresse à ça. Ma femme est professeure de théâtre. J'ai depuis longtemps envie à la fois d'adapter un de mes romans en pièce, La Fille de Papier. Voilà, je travaille sur ça depuis longtemps. J'aime le thème de la fiction qui se mêle à la réalité. Très admiratif de ce que fait Michalik. Alors on a beaucoup parlé de Edmond, mais vraiment le porteur d'histoire est incroyable et intramuros, peut-être encore plus sur sa capacité à imbriquer comme ça des histoires, des destins. Et donc j'ai depuis longtemps l'envie d'écrire un roman qui se situe dans le milieu du théâtre, enfin, qui est, voilà. Et donc je lisais pas mal de choses sur ça, et il y a voilà, une histoire illustrée du théâtre, de l'Antiquité à nos jours, qui est absolument fascinante.
Ah, c'est marrant parce que je vous parle des livres des
Ouais.
autres, mais vous
Ouais.
revenez toujours un peu au vôtre, comme si vos lectures
Mais bien sûr.
nourrissaient quand même, malgré ce qu'on a dit un peu plus tôt,
Mais
vos
bien
lectures
sûr.
nourrissent
Ah oui,
votre
non, mais
propre œuvre.
j'ai pas dit ça. J'ai dit que je ne m'en méfiais pas. Je l'accepte. Alors parfois même un truc que vous avez lu 10 ans avant peut avoir un écho, voilà, beaucoup plus tard pour un livre, voilà. Et donc là, pour le coup, oui, c'est vrai que dans tout ce qui est documentation, dans tout ce qui est essai. Effectivement, oui, c'est des choses. Enfin, pendant 10 ans, j'ai stocké sur mon ordinateur de la documentation sur la maladie d'Alzheimer, parce que je savais que à un moment ou à un autre, j'avais en moi un roman où l'un des personnages devait avoir cette maladie-là. J'ai mis 10 ans pour l'écrire, et finalement, j'ai écrit ce roman qui s'appelle Central Park. Et donc, oui, tout fait farine dans le moulin, quoi.
Il dit quand, Guillaume Musso, est-ce qu'il ne faut pas l'embêter quand il est dans un livre?
Vraiment, c'est de plus en plus difficile, voilà, d'avoir ces moments-là, notamment quand vous avez des enfants en bas âge, parce que à la fois ils vous donnent de l'énergie, les enfants, mais ils vous en aspirent. Et de plus en plus, les moments de lecture deviennent des moments privilégiés. Et des moments finalement où vous devez bien les choisir. C'est pour ça qu'avant de me lancer, voilà, dans des lectures, j'aime beaucoup sonder autour de moi des amis, des libraires, des éditeurs, voilà, pour avoir toujours une pile à lire sélectionnée, voilà, de façon assez
Il y a un petit
drastique.
moment, il y a un lieu, il y a un petit moment dans la journée où vraiment vous pouvez lire.
Honnêtement, ouais, un petit peu le soir, bien sûr, mais oui, c'est essentiellement ça, mais essentiellement quand même après, pendant des moments, voilà, des moments de pause. Et parfois, il m'arrive même que vraiment quand je suis pris par un roman, alors ça, c'est le privilège de ne pas avoir d'horaire, oui, voilà, une journée où je devais écrire et où finalement je me dis, non, mais là, j'ai trop envie de connaître la suite. Et je fais semblant d'aller à mon travail, et en fait, au lieu de me mettre derrière mon écran, je vais terminer le livre.
Alors, on a commencé en disant que les gens qui lisent sont plus heureux. Moi, j'ai lu une étude qui vaut ce qu'elle vaut,
Ouais.
qui dit que les gens qui lisent sont plus sexy aussi. Est-ce que vous êtes d'accord?
J'en sais rien, mais en tout cas, déjà, vous avez une conversation qui va être sans doute plus riche, qui va être oui, qui va être riche, voilà, d'existence multiple, qui va être oui, à mon avis, davantage lié aux choses de l'intime. Je reviens tout le temps à ça parce que vraiment, il me semble que voilà, le grand apport aujourd'hui en 2018, qu'est-ce que c'est finalement qui fait que ça reste intéressant et singulier de prendre un livre plutôt que de voir un film ou de regarder une série, c'est ce côté, voilà, vous êtes au cœur de l'intime et vous êtes, voilà, vous êtes au cœur des tourments des personnages. Moi, dans mes livres, il y a de moins en moins d'action au sens où il n'y a pas de cascade, il n'y a pas de course-poursuite, il n'y a pas de violence gratuite, de scènes sanglantes. Et le thriller, pour moi, maintenant, est avant tout intime, est avant tout lié au tourment, à la vie secrète, à la psyché. Je m'intéresse beaucoup Voilà, je lis pas mal d'essais sur à la fois la psychiatrie, la psychologie, parce que ça, effectivement, ça nourrit vos personnages. Et j'ai toujours pensé, alors bien qu'on me dise souvent, ah oui, tes histoires sont très construites, oui, c'est vrai, une partie tuyauterie, comme disait Denis Liane, qui est forte dans le roman à suspense, parce que, effectivement, pour que ça marche, il y a quand même un côté mécanisme d'horlogerie où il faut construire tout ça. Mais Liane dit avec raison, il y a une partie tuyauterie, mais nous ne sommes pas des plombiers. Nous ne sommes pas des plombiers parce que finalement, une fois que vous avez les tuyaux, une fois que vous avez le squelette, il faut mettre la chair. Et la chair sont les personnages. Et les personnages, c'est pour moi ce qui fait bien souvent que j'ai envie de rentrer chez moi le soir pour reprendre une lecture, parce que je vais m'intéresser au devenir de ces personnages, qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais, peu importe, qu'ils soient sympas ou pas. L'important, c'est même pas d'être en empathie avec eux. J'ai jamais été en empathie avec Hannibal Lecter, et pourtant Hannibal est un personnage fascinant. Et pourquoi un personnage est fascinant? Parce qu'il est complexe, parce qu'il n'est pas binaire, parce qu'il est sur un territoire qui est un territoire voilà, assez gris, traversé de désirs contraires. Et donc c'est aujourd'hui ce que j'essaye de travailler davantage. Et la grande différence entre les romans que j'écrivais il y a 10 ans et les romans que j'écris aujourd'hui, voilà, elle est sur ce terrain-là. Et je renie absolument pas hein, les romans que j'ai pu écrire il y a 10 ans avant. Hein. Mais voilà, c'est l'évolution principale de mon travail, elle est sur ce thème-là.
Ok, ben merci Guillaume Musso.
Merci, c'était un
Merci
plaisir.
pour ce petit moment
Merci.
autour des livres et de votre nouveau livre, La jeune fille et la nuit, qui vient de paraître aux éditions Calmann Lévy. Merci.
Merci.
C'est la fin de ce podcast. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode des gens qui lisent sont plus heureux. D'ici là, n'hésitez pas à le liker, le partager sur vos réseaux sociaux et vous y abonner sur votre plateforme préférée. Pour retrouver les références des livres cités par Guillaume Musso durant cet entretien, rendez-vous dans les notes de cet épisode. À bientôt et bonne lecture!